On a beau faire des plans, mais avec Dieu, il faut toujours s'attendre à des surprises. En principe, ce matin, je devais faire mon témoignage. D'autres témoignages ont été donnés. C'est pas grave. C'est très bien comme ça. Il y aura dans le message qui va suivre quelques petites choses qui vous paraîtront peut-être un peu incompréhensibles puisqu'elles étaient liées à mon témoignage. Donc, il faudra faire un effort d'imagination. Voilà. Et je voulais dire, en commençant mon témoignage, que c'est vrai, Charles conseille toujours de prendre quelques notes pour faire son témoignage. C'est très important. Et j'allais dire, moi j'en ai pris quelques-unes et je vais maintenant, si vous êtes bien installés, je vais vous les lire. Il y a que 300 pages. Donc, prenez vos oreillers et dormez bien. Non, mais simplement, c'est un bouquin que j'ai écrit, certains le savent, d'autres peut-être pas. C'est mon témoignage, je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Il en reste deux ou trois exemplaires, il y a celui-là. Donc celui-là, je vais le laisser à la disposition de l'Église. Je le remets en main propre à Olivier, comme ça, si quelqu'un oublie de le rendre, ce qui arrive souvent, et c'est dommage, parce que des livres comme ça, j'en ai peut-être donné une dizaine aux gens en disant, écoutez, vous le lisez, puis après vous le rendez pour que quelqu'un puisse en profiter. J'ai une très mauvaise mémoire, je ne me rappelle plus à qui je l'ai passé, et ils ne sont jamais revenus. Donc celui-là, ça doit être, c'est peut-être le troisième, avant qu'il n'y en ait plus du tout. Donc si vous ne le rendez pas, alors, je ne veux pas dire que c'est un bouquin important, mais c'est aussi le cheminement d'une vie. Donc voilà, c'est mon témoignage. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la haine. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs pour garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ces deux lectures faites bout à bout semblent être un seul texte. alors que les deux premiers versets sont tirés du chapitre 5 de Matthieu et que les 13 autres, nous les trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Pourtant, ces deux textes nous parlent de la nécessité de faire des choix dans nos vies. Le choix de couper, le choix de jeter et le choix de revenir au Père. J'aurais dû faire il y a quelques minutes mon témoignage. J'aurais insisté dans celui-ci à démontrer que Jésus était à notre écoute et que sa volonté était de nous libérer de nos chaînes, quelles qu'elles soient. Mais il n'y a pas de prix extraordinaire à payer pour cela. Il faut simplement l'accepter. Et je voudrais, dans ce message qui va suivre, vous expliquer comment, à mon avis, les choses fonctionnent. Souvent, nous pensons, parce que dans le monde c'est ainsi, qu'il y a de grandes choses à faire pour accéder au salut, et que pour se libérer de nos chaînes, nous devons systématiquement tomber dans un autre esclavage. Nous pensons, par exemple, que nous devons tomber dans l'esclavage d'une religion, avec des règles strictes et sectaires. Et c'est complètement faux de penser cela. La vie avec et en Jésus nous apaise et nous rend libres. En 2 Pierre 1,3, nous disons que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ce verset nous dit que Dieu a tout prévu pour que nous ayons une vie épanouie sur les deux plans, sur le plan humain et sur le plan spirituel. Et souvent, dans les interventions de Jésus, nous retrouvons ce double impact qui est également un double objectif à atteindre. Être un homme ou une femme bien, être un chrétien ou une chrétienne accomplie. Dans le monde où nous vivons, il y a plein de choses qui cherchent à nous asservir, qui cherchent à nous contrôler et à nous rendre esclaves. Je commencerai par celles qui m'ont concerné personnellement, l'alcool et le tabac. Mais rassurez-vous, comme je l'ai entendu dire lors d'une de ses prédications par un pasteur de l'église réformée de Charleroi, le pasteur de Maude, alors que les bons chrétiens bourgeois de la ville traitaient de haut les membres de la Croix Bleue, c'est-à-dire les anciens buveurs, de haut, il a dit, lui, haut et fort, en chair, que si tous les péchés faisaient marcher de travers comme l'alcool, bien les portes du temple seraient trop étroites pour la plupart des braves gens présents ce jour-là pour le culte. Et il a ensuite déclamé une liste à couper le souffle. Il a cité par exemple le sexe, les jeux d'argent, l'argent, la drogue, la nourriture, la télé, et même dans certains cas le travail. Oui, même dans certains cas le travail. Alors parmi ces choses, j'en conviens, la plupart sont légitimes dans une vie normale. Mais ce que nous dit la parole, c'est que dès qu'on ne peut plus exercer sa volonté sur une chose, quelle qu'elle soit, c'est cette chose qui nous contrôle et qui nous tient sous sa coupe. Nous en sommes esclaves. Pierre le proclame dans sa deuxième lettre au chapitre 2 et au verset 19 lorsqu'il dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Et Jésus lui proclame, et heureusement, dans Jean 8, 36, « Mais si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Alors, que faut-il faire pour aller vers une libération? Eh bien, la toute première chose, c'est de se débarrasser d'une image d'un Dieu accusateur et se rendre compte que nous avons un Dieu qui est un Dieu compatissant. Il nous faut dépasser le sentiment permanent de la culpabilité aux effets destructeurs. Il faut cesser de croire que Dieu nous condamne. C'est le péché qui nous condamne. Et c'est le péché qui est en nous que Dieu condamne. Mais Dieu a par-dessus tout compassion de nous. Nous sommes sous la grâce. Il faut arrêter de nous imaginer un Dieu nous regardant avec un regard dur, un regard accusateur. Arrêtons de nous imaginer un Dieu répressif, un Dieu qui punit. Dieu ne nous punit pas face à nos manquements. Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de pardon. Et ça, c'est toute la déclaration des évangiles. Il suffit pour nous en convaincre de lire le récit de la femme adultère dans Jean 8 et de voir les réactions de Jésus. Alors, s'étant relevé, nous dit le texte, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Mes femmes, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne n'a-t-il donc condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Eh bien, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Dans ce passage, Jésus non seulement met en fuite les accusateurs, mais il démontre la puissance du pardon divin accordé aux pécheurs. Quel que soit le péché, c'est un Dieu compatissant qui nous parle de par la bouche de son Fils. Non seulement il va confondre les accusateurs, mais surtout, il pardonne complètement nos fautes. Il y a un état d'esprit également qui risque de mettre une barrière entre le pardon accordé par Dieu et notre vie personnelle. C'est cette impression que nous avons souvent devant l'impossibilité de pouvoir régler une fois pour toutes nos problèmes. Avec Manu à Chiloé, nous entendons souvent les amis nous dire « Moi je veux arrêter, mais je rechute toujours ». Et il est vrai que pour certains péchés, ceux-ci sont récurrents et reviennent régulièrement. Nous avons l'impression que c'est terminé, et sans savoir pourquoi, nous retombons toujours dans ce fichu péché, ou dans d'autres encore. Dans Matthieu 12, il nous est dit, quand un mauvais esprit vient à sortir d'un homme, il se met à parcourir les lieux arides, ça et là, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Alors il se dit, il vaut mieux regagner la maison que j'ai quittée. Et il revient. Et à son arrivée, il la trouve inoccupée. Tout a été nettoyé, bien remis, en ordre et embelli. Alors il va chercher sept autres démons, ses copains, encore plus méchants que lui. Et il les ramène avec lui, tous ensemble. Il pénètre dans la maison et s'y installe, à demeure. Finalement, cet homme est dans un état pire qu'avant. Nous devons absolument nous méfier de ces squatteurs. Satan ne nous laisse pas en paix facilement et il essaiera toujours de mettre la pagaille en nous. Mais nous devons également être conscients que la nouvelle naissance, cette nouvelle vie qui s'ouvre pour nous le jour de notre conversion est un processus qui nous mène graduellement vers une vie selon l'esprit et non plus vers une vie selon la chair. Et c'est loin de pouvoir se faire en un seul jour. Et le jour de notre baptême est souvent le départ d'un apprentissage qui, durant toute notre vie, nous transformera pour faire de nous un être accompli dans le royaume de notre Dieu. Mais cela seulement lorsque le moment sera venu. Alors n'ayons plus peur d'aller vers Dieu. Il ne nous rejettera jamais. Il nous accueillera de bras ouverts, comme il a accueilli le fils prodigue lors de son retour. Nous sommes ses enfants, quoi qu'il arrive, et nul ne pourra nous séparer de son amour. Même s'il nous reste encore des choses à régler concernant notre passé, et si nous sommes conscients que l'avenir nous réserve encore bien des combats spirituels. Mais pour sortir vainqueurs de nos combats spirituels, il nous faut regarder la vérité en face et ne pas tomber dans le déni. Le déni qui nous fait croire que notre problème n'en est pas un ou que nous sommes capables de maîtriser la situation. C'est le cas du fumeur qui pense qu'il s'arrêtera quand il voudra, ou que l'on peut fumer parce que Dieu n'est pas contre. Ou encore, une situation que j'ai vécue concernant le travail. À une époque de ma vie, je travaillais tous les jours, et Charles doit s'en souvenir de cette période-là, y compris les week-ends. Je négligeais Dieu au détriment du travail pour me créer une réserve pécuniaire. Mais j'ai rapidement été remis dans mes clous. Lorsque les impôts et les caisses sociales ne m'ont laissé en fait pour vivre qu'un tout petit salaire. J'ai vite compris qu'il fallait, et cela est normal, travailler pour vivre, mais que le profit ne pouvait pas être le moteur de ma vie. En Luc 16, 13, il nous est dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Parfois, les excès d'activité servent à cacher autre chose. Ils servent à cacher un vide, une souffrance, un mal-être. Dieu ne nous demande pas de cacher certaines choses. Il nous demande de les partager avec lui. Il faut affronter la vérité. Il faut se dire, j'ai besoin d'une libération. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce sont Jésus et la vérité qui nous libèrent. Nous n'avons pas d'autre sortie, pas d'autre porte de sortie. Un autre piège qui existe, c'est l'auto-justification. C'est de penser, j'ai une bonne raison de me comporter comme je le fais. Par exemple, dès que ma situation financière s'améliorera, bon, j'arrêterai les jeux d'argent et les paris. Ou ma vie de couple, c'est mon affaire. Ou encore, de toute façon, je connais bien mon métier, donc inutile d'importuner Dieu avec ça. Je vous ai peut-être déjà raconté que personnellement, pour garder un espace de liberté, je voulais garder pour moi tout ce qui concernait mon travail. Je pensais qu'avec la connaissance que j'avais de ma carrière professionnelle, je n'avais pas besoin d'importuner Dieu avec mes petits soucis. Et puis un jour, j'ai découvert que Dieu voulait que l'on lui remette tout entre ses mains. Et c'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, pour la première fois de ma vie, je me suis senti véritablement libre. C'est dans le don de toute notre personne que nous trouvons la liberté en Christ. C'est cette liberté qui nous affranchit. Notre vie sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. C'est une promesse que nous trouvons dans Romains 8. Tout ce que nous vivons en dehors de Jésus, nous risquons de le vivre avec l'adversaire. Et notre liberté peut devenir très rapidement une pierre d'achoppement. Et dans ce cas, Satan peut reprendre la main sur une partie de notre vie. Et si je me laisse éblouir par mon adversaire, cet adversaire finira par me pourrir la vie en m'éloignant peu à peu, insidieusement, de Dieu. Alors dans ma faiblesse, je remets tout entre les mains du Père. Et celui-ci me dit par amour en Romains 8, les versets 37 et 39, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Dieu me dit, je te rends vainqueur parce que je t'aime. Arrivé à ce moment de ma prédication, je me rends compte que Dieu m'a libéré. Les chaînes sont tombées. Je suis un esclave affranchi. Je suis libre. Mais que vais-je faire de cette liberté ? En 2 Corinthiens 5, 17, il nous est dit, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, je ne suis plus un esclave, mais une nouvelle créature. Dieu dit qu'avec lui, je suis vainqueur sur le péché. Je dois donc me comporter comme un vainqueur. Et la première des choses pour me considérer comme un vainqueur, c'est de changer l'opinion que j'ai de ma propre personne, l'opinion que j'ai de moi. J'ai hérité d'une nouvelle identité. Je dois parler de moi autrement. Et mon comportement doit être à l'image de ce que je dis. Je dois parler de moi comme j'aimerais que Dieu parle de moi. Et j'aimerais que Dieu parle de moi, excusez-moi du peu, j'aimerais que Dieu parle de moi comme il parlait de Jacob. As-tu remarqué mon serviteur Serge? Bien, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ouais, j'aimerais vraiment que Dieu parle de moi comme ça. Et j'aimerais consacrer ma vie à faire partie de ces hommes cités par Jean lorsqu'il dit, parlant de la parole de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a des personnes qui connaissent le verset par cœur et c'est magnifique. Depuis 1970, je suis son enfant. Depuis 1970, il me délivre de mes faiblesses. Quand Dieu me regarde, au travers du prisme qui est pour nous son Fils, le Christ, il ne voit pas mes faiblesses. Ce qu'il voit, ou plutôt, dirais-je, ce qu'il veut voir, c'est sa nouvelle création. Comme il est dit en 2 Corinthiens 5, les versets 17-19, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Rien. Oh non, rien ne pourra plus jamais me séparer de l'amour de Dieu. Comme je l'ai dit plus en avant en Romains 8, 39, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aucune faiblesse ne peut me séparer de Christ. Et cela fait partie de ma nouvelle identité. La nouvelle naissance est le résultat d'une prise de position. Améliorer et faire de sa vie une réelle conversion est un cheminement. Ce n'est pas instantané. Ah, je sais, cela peut paraître contradictoire de dire les choses ainsi, alors que l'on dit toujours que notre vie change le jour de notre conversion. Mais je vais m'expliquer par une image. En sidérurgie, il existe ce qu'on appelle des convertisseurs. Ce sont d'énormes cuves où l'on fait fondre de la fonte. La fonte, c'est un mélange de fer et de carbone. Pour cela, lorsque la fonte est en fusion, on injecte dedans de l'oxygène liquide qui, par l'augmentation de la température, détruit toutes les impuretés contenues dans la fonte et transforme celle-ci en acier. Après cette opération, nous obtenons à partir de la fonte impure un acier pur. Mais cet acier, même s'il est pur, doit encore subir bien des traitements afin de pouvoir être utilisé selon le bon vouloir du chaudronnier. Il faut à nouveau injecter dans cet acier des éléments afin de le transformer et de le rendre soit plus dur, plus résistant, plus souple, le rendre inoxydable, le rendre inattaquable, etc. Eh bien, il en va de même pour nous. Lors de notre conversion, nous redevenons purs, mais nous avons besoin d'être transformés, d'être remodelés. Après la conversion, il nous faut être aidés. Nous avons besoin d'être accompagnés, et c'est indispensable. Pour cela, Dieu a permis qu'il y ait des responsables spirituels dans nos églises. Vouloir se charger soi-même de sa propre éducation spirituelle et penser être capable seul de se former au travail pour le Père ne peut nous conduire qu'à faire des erreurs qui seront néfastes dans nos églises pour nous et néfastes pour le royaume. Et c'est par les frères que nous avons dans les églises que Dieu nous fera grandir. Dans Pierre 5, 10, il est dit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. En conclusion, je voudrais dire que seuls des gens convaincus peuvent en convaincre d'autres. Que seuls des gens libérés peuvent aider d'autres amis à se libérer. Traverser des circonstances éprouvantes nous rend plus forts. Mais cela peut nous rendre également plus efficaces. Contrairement à la théorie, nous pouvons témoigner de façon concrète de ce que Dieu fait pour nous et en nous. Et là nous avons une efficacité et un impact dans notre témoignage que rien ne pourra jamais remplacer. À partir de là, nos chaînes ne sont plus à voir comme une honte, mais plutôt comme le moyen qui nous a amenés au Sauveur. Regardons-nous comme des personnes dont plusieurs auront besoin dans l'avenir pour se libérer de leurs faiblesses. Et surtout, n'oublions jamais que c'est à nous que s'adressent également ces paroles du Maître. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, et cela est très très important, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.
Merci Seigneur, effectivement, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et ta présence Seigneur est pour nous la source de la vie, la source de la paix, la source de la joie. Nous voulons vraiment te remercier parce que c'est vrai que c'est ton pardon qui a transformé nos cœurs et nous a donné cette paix. Et nous voulons Seigneur être en accord avec ce pardon Seigneur et le diffuser tout autour de nous. Témoigner, Seigneur, de ce que tu as accompli pour nous et de qui tu es, afin de te glorifier dans nos vies, Seigneur, comme nous avons pu ne pas te glorifier lorsque nous ne te connaissions pas. Maintenant, Seigneur, nous voulons te glorifier, être des témoins fidèles. Merci parce que tu nous en rends capables. Merci parce que ton amour et ta grâce agissent encore aujourd'hui, tout autour de nous. Et ça, c'est une joie pour rien de plus nous. Amen.
Amen.